Bienvenue aux Apatrides Anonymes sur choc.ca, épisode du jeudi 30 octobre 2025 et 18h30. Les Apatrides Anonymes, c'est votre dose bimensuelle d'informations locales et internationales sur, entre autres, les enjeux migratoires, les droits de la personne, les lois liberticides et discriminatoires, le racisme, les murs virtuels, psychologiques et matériels qui se mettent en place un peu partout, les enjeux autochtones ici comme ailleurs dans tout ce qu'on qualifie encore parfois de nouveau monde, mais parfois, il y a aussi du beau, du positif. On en a bien besoin, des initiatives ou des personnages héroïques à saluer. Ce qui m'amène à mes deux acolytes qui, chacun, nous ont préparé deux segments d'actualité. On va commencer tantôt l'émission avec toi, Marie-Ève. Salut. Yes.
Oui.
Oui.
Ça va?
Ça va bien, toi?
Oui. T'as-tu changé tes pneus?
Non, je crois pas. Je pense que c'est le temps. Hein? Merci de cette annonce d'intérêt public, Marie. Mais donc, tu vas pas nous parler de pneus aujourd'hui?
Non, pas vraiment.
Tu as des enjeux un peu plus, peut-être, fondamentaux?
Pas mal, oui, et un peu plus graves.
Parfait. Donc, on te retrouve pour la première partie de l'émission Tunisie, Immigration, Québec-Canada.
Oui.
Mathieu, tu es pour l'instant en régie. Tu vas venir me rejoindre dans le studio principal pour la deuxième partie de ce balado pour nous parler de...
Oui, bonsoir Simon.
Salut Mathieu.
Je vais parler de la Gen Z, la Z-Gen, la génération Z. Bon, les manifs émeutes et renversements de gouvernement qui y a un petit peu partout depuis quelques mois.
Parfait.
Et je vais parler aussi des actualités autochtones, mais un focus sur les enjeux femmes, violence contre les femmes autochtones. Ouais,
donc, on ne sera pas dans la protection de l'environnement ou l'extractivisme.
Ou les enjeux de territoire, non.
Parfait. Donc, enjeux plus féminins, féministes, autochtones.
Exactement.
Et moi, je suis Simon, animation, réalisation, choix musicaux. Pour cette fois-ci, je vais ajouter quelques nouvelles ici et là et je vous présenterai aussi l'agenda antiraciste. Dans un instant, on s'en va voir ce qui se passe en Tunisie avec Marie-Ève.
Et oui, Marie-Ève, telle qu'annoncée, qui vous parle du gouvernement tunisien qui a haussé d'un cran la répression contre les ONG qui viennent en aide aux migrants dans le pays, à un point tel que plusieurs dénoncent une dérive autoritaire de plus en plus décomplexée qui vise à réduire au silence toute critique des politiques gouvernementales ou de l'aide humanitaire en lien avec surtout les migrants subsahariens. Lundi dernier, les autorités sont allées jusqu'à suspendre pendant un mois les activités du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, le FTDES. Le FTDES est une ONG créée post-révolution de 2011 et ses activités, vous allez le voir, sont hautement subversives. Elle recueille des données et organise ponctuellement des mobilisations sur des questions comme la traite des migrants tunisiens et subsahariens, les droits des travailleurs agricoles et la pollution environnementale. Et donc, la suspension du FTDES fait suite à celle de l'Association des femmes démocrates, une association féministe qui a été créée en 1989 et qui est à l'avant-plan des luttes pour l'avènement de la démocratie en Tunisie et contre la dictature de Ben Ali. Le gouvernement utilise aussi la bonne vieille guerre d'usure des procédures légales et administratives.
Un classique.
Depuis avril, le FTDES fait l'objet de séries d'audits financiers et fiscaux. Ces derniers jours, des médias locaux ont rapporté l'ouverture d'enquêtes judiciaires pour examiner les financements étrangers, surtout reçus par diverses organisations de la société civile. Des investigations qui auraient déjà abouti à la dissolution de 47 associations et au gel des avoirs de 36 autres, c'est pas rien.
Oui, puis il y en avait eu plusieurs autres même avant dans les mois qui précédaient aussi.
Oui, c'est ça. Mais plus inquiétant, par exemple, c'est que plusieurs dirigeantes d'ONG tunisiennes et étrangères ainsi que des avocats ont été arrêtés pour leur prise de position. En mai 2024, la présidente de l'association antiracisme Nemti et l'ancienne présidente de la branche tunisienne de France Terre d'Asile avait été arrêtée et placée en garde à vue, puis relâchée. Mais là, il y a aussi Mustapha Djemali, 81 ans, fondateur du Conseil tunisien pour les réfugiés, le CTR, qui est emprisonné depuis le 3 mai 2024, ce qui dépasse largement la limite légale des 14 mois.
Un prisonnier politique, on peut dire.
Effectivement. Son procès a d'ailleurs commencé il n'y a pas longtemps, là, à la mi-octobre. Cet ancien fonctionnaire du HCR est accusé, et je cite, « d'aide à l'entrée clandestine de ressortissants étrangers en Tunisie ». En fait, il s'occupait de l'enregistrement de demandeurs d'asile en Tunisie, une activité tout à fait légale et même sous l'autorité de l'ONU.
Eh oui.
À ses côtés, sur le banc des accusés, Bderazek Krimi, qui était chef de projet en prison depuis un an et demi lui aussi, et quatre autres responsables qui, eux, ont été laissés en liberté.
Tous du HCR ou...
Oui, c'est ça. Tout du HCR et du CTR là, qui relève du HCR.
Parfait.
Monsieur Djemali a été arrêté alors que le CTR, le Conseil tunisien pour les réfugiés, avait lancé un appel d'offres auprès de prestataires de services hôteliers, pour trouver un hébergement destiné à des demandeurs d'asile. Et sur fond de xénophobie, l'affaire avait provoqué une campagne de dénigrement de l'action humanitaire en Tunisie. Le CTR a aussi été soupçonné de corruption. Et donc, le FTDES, dont j'ai parlé plus tôt au début de ce micro-là, il revient, lui aussi.
Bon, oui, on regarde notre organigramme d'acronyme.
Genre, on va mettre ça sur notre site. Là.
C'est bon.
Eux ont dénoncé là, une criminalisation de l'aide aux migrants et aux réfugiés, apportant un soutien total au CTR, ce qui explique probablement en partie sa suspension et l'acharnement judiciaire qu'il subit de la part du gouvernement. Et lors d'ouverture du procès, l'avocate de M. Djemali a entre autres demandé sa libération provisoire parce qu'il souffre de graves problèmes de santé. Mm-hmm. Le tribunal a rejeté la demande et a ajourné le procès jusqu'au 24 novembre. Les conditions de détention de M. Djemali seraient extrêmement dures et dégradantes. Il aurait perdu plus de 35 kilos.
Oh.
Et selon sa fille qui vit à Genève, il n'arrive même plus à se tenir debout. Pour Antonia Mulvey, qui est directrice du cabinet Legal Action Worldwide, M. Djemali et M. Derazek Krimi sont poursuivis uniquement en raison de leur travail humanitaire légitime. Le cabinet dénonce, je cite, une procédure arbitraire en violation des engagements internationaux de la Tunisie, notamment sur le plan de la protection des réfugiés et du personnel humanitaire. Et donc, depuis mai 2024, c'est au moins 40 personnes qui ont été poursuivies en justice pour leur travail en ONG, selon Amnesty International, que je cite, « Les organisations d'aide aux migrants sont traitées comme des criminels par le régime, accusées par le président tunisien Kais Saied d'être des traîtres, des agents de l'étranger cherchant à installer des migrants subsahariens en Tunisie, fin de la citation. »
Ben oui, comme si elle allait les chercher. Tu sais.
Exact. Ouais, non, c'est ça. Mais bon, reste que les premières victimes, là, ça demeure les exilés subsahariens eux-mêmes, qui sont régulièrement condamnés pour séjour irrégulier et écopent de plusieurs mois de détention. La situation est telle que, selon des témoignages de migrants recueillis par Info Migrants, les prisons sont remplies de subsahariens enfermés aux côtés de prisonniers de droit commun. La rhétorique du président tunisien a aussi d'autres conséquences très concrètes. Expulsion forcée, déportation collective vers le désert libyen ou algérien. Et face à la répression tunisienne, des milliers de migrants cherchent aussi à quitter le pays via le programme de, j'ouvre les guillemets, retour volontaire.
Oui, oui. C'est surtout pour le mot volontaire que tu as mis des guillemets, je pense.
Oui, de l'OIM. Mais bon, l'agence qui est débordée par ces dossiers-là peine à prendre en charge toutes les demandes.
Forcément.
Donc, voilà, ça fait le tour des dernières nouvelles en Tunisie.
Je ne sais pas si l'ONU prévoit des sanctions pour ses propres travailleurs là, envers la Tunisie. Je sais pas. En tout cas, il me semble que c'est quand même particulier qu'un gouvernement national emprisonne des travailleurs internationaux.
Oui, non, c'est ça.
Donc, merci beaucoup, Marie-Ève. On traverse la Méditerranée pour deux nouvelles brèves. Tout d'abord, l'Union européenne qui vient de commencer à déployer un système extrêmement coûteux et douteux de contrôle biométrique sur l'ensemble des frontières extérieures de l'espace Schengen, aux frontières terrestres, dans les ports et les aéroports avec des liaisons internationales. Tous les noms, numéros de passeport, empreintes digitales et photos de toutes les personnes non européennes qui arrivent en Europe seront regroupés dans un répertoire numérique unique baptisé ESS pour système entrée-sortie et une fois l'implantation complétée d'ici environ 6 mois, ce seront des centaines de points frontaliers qui seront équipés du nouveau système. En plus des données personnelles et biométriques, la préoccupation des capitales européennes, c'est de savoir si les gens sont sortis du territoire, donc en croisant les dates d'entrée avec les durées permises par tel titre de séjour, les différents États avec Frontex pourront se mettre à pourchasser les gens dont le titre est expiré et dont la sortie n'a pas été enregistrée. Donc c'est une arme de plus dans l'arsenal de la forteresse Europe, du technosolutionnisme pur, qui évidemment ne va pas du tout dans le sens d'encourager les entrées aux postes frontaliers réguliers, mais au contraire, va favoriser les passages clandestins pour éviter d'être enregistré dans un système où, au moment de votre date de sortie prévue, une chasse à l'homme s'enclenche automatiquement contre vous. Avant d'écouter une première pièce musicale complète, une autre brève en provenance d'Europe, un deuxième camouflet a été asséné au gouvernement belge début octobre par ses propres tribunaux en lien avec une famille afghane à qui on avait refusé une place en hébergement temporaire sous prétexte qu'elle avait déjà obtenu l'asile en Grèce. Famille qui vivait donc dans la rue depuis août 2025, donc non seulement sans logement, mais sans aucun accès aux services de base. La raison pour laquelle les juges ont déterminé que ce refus était inapproprié, c'est qu'ils s'appuyaient seulement sur cette règle sans tenir compte de la situation particulière de la famille, dont la loi rend l'analyse obligatoire. Et dans le cas de cette famille, à l'instar de plusieurs réfugiés officiellement reconnus en Grèce, on n'avait pas plus accès aux services, au logement, au travail décent, à l'éducation des enfants en Grèce, là, j'entends.
Ouais.
Aux soins médicaux. C'est d'ailleurs la raison pourquoi il y a de plus en plus de réfugiés en situation régulière. C'est ça qui fuit la Grèce pour d'autres pays européens. En plus du déni des services de base, on recense aussi beaucoup de cas de violence envers les réfugiés qui sont sur le territoire grec. Tous des facteurs qui doivent être pris en compte quand une agence frontalière reçoit une demande, comme le mentionne cet extrait du jugement que je vous lis à l'instant. Il est avéré et amplement reconnu que le statut de réfugié en Grèce n'offre aucune garantie et que ceux qui en bénéficient se retrouvent en réalité dans une situation de précarité extrême. Donc le mot « extrême » est utilisé dans le jugement. On verra ce que ça donne pour les dossiers semblables qui s'accumulent, mais la ministre belge de l'Asile et de la Migration, excusez mon flamand, Annelien van Bossuyt, a déjà affirmé qu'elle n'entendait pas respecter les jugements des tribunaux de son propre pays. Sur cette attitude obstructive et arrogante, on s'en va en musique. On va écouter donc Alex Ferns, la pièce « Haha ».
Shame, you're a little late. You shut talk over the microphone.
On entendait la pièce AA, Haha, du Montréalais Alex Ferns, anciennement de Bloodskin Atopic, qui fait carrière solo et en français depuis 3-4 ans, et on patinait en studio, ça a l'air qu'il est aussi barman à l'ESCO, avec un son difficile à décrire, qui, selon son Bandcamp, serait du post-punk qui flirte avec la pop hypnagogique, créant ainsi un hybride lo-fi entre synthwave et rock alternatif. On ne le contredira pas. Et c'était extrait de son tout récent album « Symphonie publicitaire sous influence », qui est sur étiquette Motland et qui vient de faire son entrée dans le palmarès local de Choc. Deux dates de lancement prévues, le 8 novembre au Ritz PDB à Montréal et le 14 novembre au Pantoum à Québec. Avant de retrouver Marie-Ève pour les dernières nouvelles en immigration à Québec et à Ottawa, je me tourne très rapidement vers Washington, dont la planète est en train de faire une overdose actuellement. Je voulais quand même vous parler on va juste prendre, je pense, des petites nouvelles brèves insignifiantes une fois de temps en temps, parce qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler.
Je suis bien d'accord avec ça.
Donc, on va vous parler des visas dorés, qui, comme tout ce que Trump touche, se transforme en château de Barbie rococo patriote 24 carats. Donc, c'est son initiative.
Mais quand tu creuses un peu, c'est du caca.
C'est du gros caca orange. Donc, initiative de Donald de créer une nouvelle voie d'immigration spécifique à la main-d'œuvre très spécialisée de la tech. Il se met donc légèrement à dos ses tech bros de la Silicon Valley, les Zuckerberg, Bezos et autres tentatives de mâle alpha, puisque pour faire venir aux États-Unis des travailleurs étrangers qualifiés, dont les trois quarts sont des ressortissants indiens, les entreprises de haute technologie devront payer cette nouvelle version du visa H1B, 100 000 $ par travailleur. Ces visas d'une durée de 3 ans sont assortis d'une carte de crédit avec marge de 1 000 000 $, une carte dorée appelée Trump Gold Card avec sa grosse face dessus, et je suis complètement sérieux. Le but de cette mesure est de dissuader les entreprises de faire venir des travailleurs étrangers et surtout des travailleurs indiens pour mettre America d'abord, mais les tech bros disent que ça nuit à leur plan d'embauche, qu'il n'y a pas assez de travailleurs spécialisés états-uniens pour compenser cette perte, mais ça ne nous fera pas pleurer, sachant que plusieurs de ces entreprises sont multimilliardaires et qu'elles sont directement responsables de l'actuel climat social et politique nauséabond aux États-Unis. Donc, à défaut de pleurer, on pourrait même rire avec ce bras de fer potentiel entre technofascistes qui peut-être décideraient éventuellement de renverser leurs algorithmes qui sont depuis des années férocement pro-Trump. On verra. Mais je pense qu'on est juste en train de chercher la moindre petite brèche à laquelle s'accrocher. Marie-Ève, donc, oui, ici, on a la catégorie d'immigrants investisseurs pour les riches qui veulent s'acheter la souveraineté canadienne, mais je crois pas qu'on soit rendu au visa doré avec la face de Carney ou de la gouverneure générale.
Pas vraiment, non.
Qu'est-ce qui se passe dans nos politiques d'immigration dernièrement au Québec et au Canada?
Bon, mais écoute, je vais vous faire une petite litanie, là. Des décisions arbitraires, une forte demande dans les programmes d'immigration, des retards accumulés, mais aussi des programmes d'immigration très compétitifs en raison de la forte demande et des critères d'admissibilité stricts.
Parfait.
Comme le programme Entrée Express, qui attribue un score à chaque individu en fonction de son niveau d'études, de ses connaissances linguistiques et de son expérience professionnelle, de ses compétences, etc. Ou encore le programme d'expérience québécoise, le fameux PEC. Mm-hmm. Bref, tout ça pousse de plus en plus d'étudiants, étudiantes, de travailleurs, travailleuses étrangers et de réfugiés à présenter une demande dans la catégorie des considérations d'ordre humanitaire comme dernier recours pour rester au Canada. Sauf que, ben, on le sait, hein, les personnes qui obtiennent une décision favorable sont rares. Et lorsqu'elles l'ont, elles font face à de nombreux obstacles ou même pendant dans l'attente aussi. Par exemple, les demandes dans la catégorie humanitaire sont pas soumises à une liste de critères, contrairement à d'autres programmes d'immigration. En fait, les décisions sont subjectives.
C'est les arbitres qui décident, je crois.
Oui, des arbitres, et selon leur à quel point vous avez le candidat ou la candidate pourra éveiller la compassion, leur compassion.
C'est ça.
Puis qui vont décider s'ils méritent ou non de rester au Canada. En 2024, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, encore des acronymes, excusez, a reçu 13 750 demandes pour des raisons humanitaires. Et donc, selon le plan des niveaux d'immigration là, fédéral 2025-2027, le Canada en recevra 10 000 seulement en 2025. Et ce nombre va continuer à baisser au cours des deux prochaines années, passant à 6 900 l'année prochaine, puis à 4 300 en 2027.
C'est des grosses baisses, hein?
Quand même, oui. Et donc, ben là, les temps d'attente déjà longs vont pas s'améliorer puisque le bureau de l'immigration a comme objectif de réduire d'environ un quart ses effectifs au cours des 3 prochaines années pour diminuer les dépenses puis revenir à son niveau de personnel d'avant la pandémie.
Donc, on dirait qu'il fait exprès pour qu'il y ait toujours des délais les plus longs possibles.
Ben, c'est ça. Puis là, ben, comme chaque agent d'immigration va devoir composer avec la pression de rendre une décision dans un délai court pour éviter une accumulation de dossiers en attente, ben, ça aussi, ça peut conduire à des décisions qui sont prises trop vite ou plus souvent négatives. Et donc, au Québec, la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, la TCRI, a demandé au gouvernement du Québec en commission parlementaire la semaine passée, non seulement de hausser les seuils dans la catégorie humanitaire, mais aussi carrément d'éliminer les quotas, puis d'admettre en continu les demandeurs d'asile déjà reconnus ici, ce qui est comme vraiment pas gagné.
Ben non, je serais très surpris qu'il y ait une réponse positive du gouvernement québécois. Là,
pas dans l'année qui vient, en tout cas. Selon la TCRI, les 3 scénarios d'immigration permanente soumis par le gouvernement du Québec, qui sont de 25 000, 35 000 et 45 000 personnes par année, bien, ces 3 scénarios-là proposent des niveaux beaucoup trop bas d'admission dans la catégorie des réfugiés et personnes en situation semblable. Par exemple, dans le scénario le plus bas, soit celui de 25 000, la résidence permanente prendrait environ 18 ans pour les réfugiés reconnus sur place et 50 ans pour les personnes admises pour des considérations humanitaires. La TCRI, qui qualifie ces délais de délire...
Ou de blague.
Avec raison.
De blague plate, là.
En fait, est arrivé à ces chiffres-là en faisant des calculs, en croisant les inventaires actuels avec le nombre d'admissions que prévoit le gouvernement Legault. Donc là, actuellement, il y aurait plus de 50 000 réfugiés reconnus ici qui ne font qu'attendre leur résidence permanente. Donc, comme je le disais, la TCRI demande que cette catégorie-là soit hors quota et puis donc que ces personnes-là soient admises en continu. Là. Ça leur permettrait de s'intégrer plus rapidement puis de surmonter un des plus grands obstacles à leur intégration, c'est-à-dire la réunification avec les membres de leur famille qui sont souvent restés dans leur pays d'origine. La TCRI demande d'ailleurs que le gouvernement arrête d'inclure les réfugiés au Québec qui ont déjà été acceptés par le fédéral dans son calcul de résidents non permanents. Elle dit que ça fausse le calcul et ne fait que gonfler les chiffres puisque la majorité va s'établir ici durablement, donc c'est pas des résidents non permanents. Puis si on exclut les retraits et les désistements, selon la TCRI, 80% des demandes d'asile seraient acceptées aussi. D'ailleurs, au gouvernement qui souhaite réduire de moitié son nombre d'immigrants temporaires, la TCRI répond par une solution qui impliquerait les 150 000 personnes actuelles majoritairement dans les catégories des réfugiés du regroupement familial qui attendent toujours leur résidence permanente. Si on régularisait toutes ces personnes-là, déjà ici, la TCRI estime que ça pourrait réduire de 30 % les immigrants, le nombre là, de migrants temporaires.
Mm-hmm.
Puis concernant la fameuse capacité d'accueil martelée par Jean-François Roberge puis le gouvernement Legault en général.
Qui n'a jamais été scientifiquement calculée,
ben,
là,
c'est
faut
ça.
Le rappeler.
C'est exactement ce que dit la TCRI. Puis elle dit qu'elle attend d'ailleurs toujours les résultats probants sur le sujet.
Elle risque d'attendre un petit moment.
Je vais terminer avec, j'ai encore du temps.
Vas-y, Maria.
Avec des suivis de 2 cas concrets, là. Qui vont dans le sens des recommandations de la TCRI. D'abord, celui des réfugiés ukrainiens.
Oui.
2 ans après leur arrivée d'urgence au Canada, près de 300 000 Ukrainiens, Ukrainiennes sont toujours coincés dans les limbes juridiques.
Mais elles sont sur le territoire canadien.
Oui, elles sont ici, mais il se passe rien, là. Le programme d'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine, qui était à la base un programme de résidence temporaire, en attendant, là, ça, c'est le programme par l'entremise duquel toutes ces personnes-là sont arrivées. Ben, ce programme a expiré en mars dernier.
OK.
Depuis, des milliers de ces personnes-là attendent une réponse à leur demande de résidence permanente pour des raisons humanitaires. Ces demandes-là sont traitées en 25 mois en moyenne, selon les délais officiels de Immigration Réfugiés Canada. Et donc, ben, en plus de se retrouver dans les limbes juridiques jusqu'à quant à leur avenir, c'est aussi le quotidien de milliers de personnes qui est parsemé d'obstacles. Par exemple, si elles sont en Ontario, Ben, acheter une maison en Ontario coûte 25 % plus cher en raison de l'impôt sur la spéculation pour les non-résidents de la province. Mm-hmm. Puis si on est à Toronto, mais il faut ajouter un 10 % de plus de taxes pour ceux qui sont pas résidents permanents. Puis ça, c'est bien évidemment dans un des marchés immobiliers les plus chers du pays. Ou encore, pour ce qui est des étudiants et étudiantes universitaires, ben eux et elles non plus peuvent sont pas considérés comme des étudiants nationaux, ce qui veut dire que les droits de scolarité sont beaucoup plus élevés, ce qui remet donc leur projet d'études en suspens, parce que, bon, c'est beaucoup plus cher, évidemment. Deuxième dossier, celui des Ouïghours. Il y a plus de 2 ans, là aussi, on est dans les délais là, du 25 mois. Là, il y a plus de 2 ans, le Canada s'était engagé à accueillir 10 000 réfugiés Ouïghours fuyant la Chine à 15 mois de la date. Ça, c'était d'ici 2026, en 2026.
Okay.
Donc là, on est à 15 mois de la date butoir. Ben là, à peine quelques centaines sont arrivées, finalement.
Quelques centaines sur 10 000?
Oui. Okay. Ce qui suscite évidemment une vive déception dans la communauté. À Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, on explique que ben, pour des raisons de sécurité, il faudrait plus de temps pour mettre en œuvre cet engagement-là, que l'initiative est complexe en raison du niveau de risque pour des relations diplomatiques.
Ben, j'imagine qu'on essaie de restaurer actuellement notre relation avec la Chine, donc ce serait mal vu d'accueillir des Ouïghours en les qualifiant de réfugiés humanitaires. Tu sais, mais
c'est sans doute
c'est
ça.
C'est très politique.
Je termine rapidement avec une suggestion de lecture. En fait, c'est pour une entrevue de fond sur le sujet avec une réfugiée colombienne et une avocate en immigration. Donc, je vous invite à aller lire l'article de Natalia Rivero sur le site de La Converse. Des cas de figure concrets, mais pas dont je vous ai parlé présentement. Mm-hmm. Donc, l'article s'intitule « La dernière bouée de sauvetage pour les immigrants et les réfugiés au Canada ». Elle parle évidemment de la catégorie humanitaire, là, pour raisons humanitaires. Donc, c'est sur La Converse.
Merci beaucoup, Marie-Ève. On note la suggestion et merci pour les actualités canadiennes. On se tourne encore vers l'Europe où on assiste à une multiplication des milices civiles anti-migrants qui s'autoproclament justiciers et qui patrouillent les rues des quartiers plus multiculturels et qui n'hésitent pas à se rendre dans les hôtels qui hébergent les migrants pour les intimider ou les agresser ou, comme c'est maintenant le cas au Royaume-Uni, dans certaines bases militaires, qui ont été récemment converties en centres d'hébergement temporaires. Le phénomène s'étend maintenant à une grande partie de l'Europe, ça fait boule de neige, comme le rapporte la chaire d'observation de la radicalisation de la Commission européenne qui vient de publier un rapport sur le sujet. Rapport seulement disponible en anglais, je vous donne le titre quand même si vous voulez le consulter. Contemporary Manifestations of Violent Right-Wing Extremism in the EU, dans lequel on ne se contente pas seulement de décrire, de quantifier le phénomène, mais on se penche sur les stratégies de communication, de mobilisation, la construction du narratif, les pressions qui sont exercées sur les milieux politiques et médiatiques et sur ce phénomène des milices civiles qui se prennent pour des croisés du dimanche contre le péril sarrasin. en parallèle, on assiste aussi, toujours un peu partout en Europe, à des manifestations anti-migrants de plus en plus importantes, fréquentes et violentes. Il y en a eu une fin septembre aux Pays-Bas, à La Haye, qui a rassemblé des dizaines de milliers de manifestants xénophobes où le siège du Parti démocrate 66, qu'on peut qualifier de centre-centre-gauche, a été attaqué. Début octobre, c'était au tour de la Pologne de vivre le même scénario avec une manifestation anti-migrants massive à Varsovie, une initiative du parti Droit et Justice qui, comme les autres partis d'extrême droite partout dans le monde, joue la peur des migrants et les rend responsables d'une insécurité toute relative, il faut le dire, en les décrivant comme des agresseurs, des voleurs et des violeurs. On en a aussi contre le pacte migratoire européen adopté en 2024 et qui prévoit la relocalisation de migrants actuellement dans des pays méditerranéens vers des pays de l'intérieur du continent, mais là aussi on manipule un peu la vérité, sachant qu'étant donné que la Pologne a accueilli des centaines de milliers de réfugiés de guerre ukrainiens, elle serait beaucoup moins impactée par ce pacte migratoire que la plupart des pays voisins.
Effectivement.
Je reviens rapidement au Royaume-Uni avant d'aller en musique. Je parlais tantôt des patrouilles anti-migrants. On peut maintenant voir de ces patrouilles composées de militants d'extrême droite britannique, souvent du parti UKIP, sur les côtes françaises, autour de Calais, près des lieux d'embarquement pour traverser la Manche. Les gros bras, toujours des hommes, ont leur costume habituel, style paramilitaire en noir avec drapeau, les drapeaux qui servent aussi à frapper. Et on se contente pas d'intimider de loin avec des slogans, on intercepte physiquement, on cloue au sol les migrants, on arrache leurs vêtements, leurs biens, leurs gilets de sauvetage, leurs couvertures, et on leur gueule dessus avec des lampes de poche dans la face, et ça les terrorise. Donc, pas de réaction pour l'instant des autorités françaises qui ne devraient en aucun cas tolérer ce genre de violence sur son territoire et qui ont généralement déchiré leur chemise quand il s'agit de dénoncer la violence perpétrée par des migrants, même quand elle n'est pas avérée ou encore quand il y a 2-3 graffitis pro-palestiniens suite à des manifestations contre le génocide. Là, ça, c'est grave. Donc là-dessus, on va aller écouter une pièce musicale et au retour, Mathieu nous parle de manifestations à différents endroits de la planète, des manifestations qui sont passablement plus enthousiasmantes. Donc juste avant, le trio montréalais de pop expérimental Chances, qui vient de sortir son 3e album complet, And Now You Become a Seeker, qui se trouve dans le palmarès local de Choc. On va écouter la pièce Diamond Doves. Sur choc.ca, la pièce Diamond Doves du groupe Chances. Donc, après les manifestations xénophobes en Europe, Mathieu, tu as D'autres types de manifestations complètement différentes dont tu veux nous parler.
Oui, ben oui, ça se passe pas nécessairement tout le temps bien pour les manifestants, par exemple, parce qu'il y a de la répression assez solide.
Oui, ça, c'est l'aspect moins enthousiasmant.
Moins enthousiaste, mais il y a des résultats, genre des renversements de gouvernement, ce qui peut être intéressant quand même. Donc, Génération Z, on en a parlé un peu dans les médias dans les derniers mois. Bon, je ne répéterai pas l'histoire du manga, tout ça, c'est plus ou moins intéressant. Mais l'idée, c'est que des jeunes ont toujours manifesté dans l'histoire, les étudiants, les jeunes étudiants-étudiantes, les jeunes travailleurs, jeunes travailleuses, les travailleurs.
Les grands mouvements sociaux commencent souvent comme ça.
Exact. Ça devient des manifestations de masse, des mouvements de masse, ou pas. Des fois, c'est plus efficace à moins nombreux. Mais disons que cette vague dite de la Gen Z là, a descendu dans les rues de nombreux pays tout au long de 2025. On les a un peu associés ensemble. Au Népal, la bougie d'allumage a été l'interdiction des réseaux sociaux par les autorités. Mm-hmm. Au Maroc, on va en parler tantôt, le scandale des hôpitaux insalubres où sont mortes des femmes en couche sur fond de dépenses de l'État pour des événements sportifs grandioses. En Indonésie, la brutalité de la police contre ce qu'on appelle le sous-prolétariat des villes, par exemple les livreurs à bicyclette. Et à Madagascar, ben, ça a été les coupures d'eau et d'électricité, on en a plus parlé. Donc, ils manifestent contre des questions assez évidentes, les services publics essentiels qui font défaut, la pauvreté, le coût de la vie, la corruption, les détournements de fonds par des politiciens, des fonctionnaires ou des riches, ouais. Hommes et femmes d'affaires.
Les réseaux sociaux, ça peut avoir l'air superficiel, mais c'est quand même le mode de communication... privilégié de la plupart du monde aussi. Là.
Oui, un peu partout dans le monde, tout à fait. Mais sauf qu'à Madagascar, on se demande actuellement est-ce que c'est un coup d'État, parce que y a un colonel qui a assumé la réalité du pouvoir dans une déclaration il y a deux semaines face au palais présidentiel. Il a dit « On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui, on dissout le Sénat et la Haute Cour ». L'Assemblée nationale, on la laisse continuer à travailler pour le moment. Les manifestants étaient heureux, mais on leur a dit qu'il n'y aurait pas d'élection d'ici 2 ans. Donc, ça a été déjà un premier coup de massue.
Ouais.
Le colonel en question, Michael Radrianirina, a donc été investi comme président il y a 10 jours.
Par genre de conseil constitutionnel.
Par l'Assemblée nationale, conservé. Un nouveau gouvernement a été annoncé ce mardi 28 octobre. Il compte 29 nouveaux ministres chargés de sortir le pays de la crise, entre guillemets. Cette nouvelle équipe comporte beaucoup de noms inconnus du grand public, mais aussi le retour de certains caciques ou vieux Chris de la vie politique malgache.
Belle traduction, Mathieu.
Zizika, un des organisateurs des manifestations, s'est dit embêté que certains dinosaures aient été recyclés et de retrouver à des postes clés certains proches de l'ancien régime ou de la précédente transition. Pour lui, ce gouvernement s'apparente finalement à une espèce de retour de faveur politique mêlée à une volonté de bien paraître. Il voit également le risque de certains conflits d'intérêts de nouveaux ministres dont le portefeuille correspond au secteur d'activité dans lequel ils ont bâti leur carrière dans le privé.
Tiens donc.
Le processus de nomination a été unilatéral. Nous, la jeunesse, n'avons eu aucun droit de regard. Donc, à suivre pour le Madagascar, c'est quand même eux qui ont renversé le président corrompu qui était là. Au Maroc, ben le 1er octobre et autour, des manifestations autorisées pour la première fois depuis longtemps ont eu lieu dans plusieurs villes marocaines. Au 5e jour d'un appel à protester d'un collectif appelé Gen Z 212, réclamant de meilleurs systèmes éducatifs et de santé. Au total, plus de 400 personnes ont été interpellées et plus de 300 ont été blessées dans ces journées-là. Oh. Les personnes ont été placées en garde à vue à la suite de heurts avec la police, faisant état de véhicules de police et de particuliers brûlés, d'attaques sur les administrations, les postes de police, les agences bancaires, les commerces. Ça a quand même pas mal brassé. Puis là, ben un mois plus tard, ben plus de 2400 personnes, dont plus de 1400 qui sont toujours en détention, font l'objet de poursuites au Maroc.
Ça va être long, hein, tous ces procès?
Oui, ben non, ils peuvent être expéditifs, tu vas voir. À la suite des deux soirées particulièrement qui ont été marquées par des violences qui ont fait finalement 3 morts chez les manifestants. Au 27 octobre, les tribunaux marocains avaient condamné 411 personnes déjà.
En
quelques jours, dont 76 mineurs à des peines de prison ferme ou avec sursis. Parmi elles, 61 ont été condamnées en première instance à des peines allant de 1 à 15 ans de prison ferme pour dégradation, émeute, et etc. Quasi quotidien pendant 2 semaines, les rassemblements du collectif se sont raréfiés, notamment après un discours du roi le 10 octobre qui a exigé une accélération des réformes sociales et l'annonce par le gouvernement d'un effort budgétaire pour 2026 de 13 milliards d'euros pour la santé et l'éducation. Ça, c'est le résultat pour l'instant.
Le discours du roi.
Oui, du roi Mohamed VI. Je finis avec le Pérou. Des milliers de personnes ont défilé le 15 octobre dans tout le pays face à une vague sans précédent d'extorsion et d'assassinats visant des chauffeurs d'autobus et de taxis, des artistes et d'autres milieux imputés au crime organisé. On avait parlé une fois à l'émission.
Oui.
Un homme a été tué, une centaine de personnes ont été blessées à Lima lors d'une manifestation contre la hausse de la criminalité, l'insécurité économique et la corruption au lendemain de la présentation du nouveau gouvernement par le président José Géry. C'était beaucoup des jeunes qui étaient dans la manif, évidemment. Cette crise sécuritaire avait déjà précipité la destitution de la présidente Dina Boluarte. Le 10 octobre. Donc, Géry, président du Parlement, assume l'intérim jusqu'en juillet 2026. On avait parlé de cette Madame Boluarte aussi il y a quelques mois. Et en plus, les organisations féministes faisaient aussi partie du cortège mobilisé contre le nouveau président qui fait l'objet d'une plainte pour viol qui a été classée sans suite récemment. Les heures du 15 octobre portent à près de 150 personnes le nombre de blessés dans les manifestations de ces dernières semaines, parmi lesquelles des policiers, des manifestants et des journalistes. Les protestations se sont intensifiées depuis que le gouvernement Boluarte, qui est finalement tombé, a promulgué le 5 septembre une loi obligeant les jeunes à cotiser à des fonds de pension privés, malgré la précarité de l'emploi et le fait que plus de 70% des Péruviens travaillent dans le secteur dit informel. Donc, c'est pas très réaliste, non? On s'entend? Je termine avec deux suggestions de lecture, tout simplement. Radio-Canada, Gen Z, pourquoi la génération Z se soulève-t-elle aux quatre coins du monde? C'est sorti il y a à peu près deux semaines. Et le média français France 24, du Maroc à Madagascar, la génération Z fait sonner la révolte au-delà des frontières. Donc, à suivre quand même comme mouvement, comme on suit de toute façon les différents mouvements sociaux dans le monde, à l'émission et ailleurs.
C'est ça, ils évoluent, il va en avoir d'autres. Donc, merci beaucoup, c'est vraiment un tour du monde.
Et à suivre, oui.
À suivre, donc Népal, Indonésie, Madagascar, Maroc, Pérou. Donc, ouais. Merci beaucoup Mathieu. Au retour, on est toujours aux Apatrides sur Choc, on a des enjeux autochtones d'ici et d'ailleurs. Dans un instant, des enjeux autochtones de notre partie de continent ici avec Mathieu. Je lui dresse le couvert avec deux brèves à la thématique autochtone, mais d'ailleurs, d'abord aux États-Unis, où la rhétorique militaire est de plus en plus fascisante, décomplexée, dans un dossier où beaucoup de gens autochtones, mais allochtones aussi, demandaient le retrait rétroactif de médailles d'honneur accordées aux soldats qui avaient massacré à la fin du 19e siècle plus de 200 femmes et enfants de la tribu Lakota, dans l'actuel Dakota du Sud. Un massacre pour lequel la législature du Dakota du Sud et même le Congrès à Washington avaient adopté des motions exprimant leurs regrets par rapport à ces événements dramatiques. Papier très percutant de Robert Falcon Ouellette dans Espace autochtone qui nous traduit le ton particulièrement violent du secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth, qui ne s'est pas contenté de refuser sèchement le retrait posthume de ses honneurs militaires, mais en a profité pour ajouter que, et je paraphrase, l'ère du département de la défense est terminée. Notre armée sera entièrement tournée vers la létalité et la paix par la force. La paix par la force, c'est très orwellien.
La pacification, forcée.
Exactement. Ouais. Les âneries woke sont terminées. Il n'y aura plus de barbus et le combat reviendra aux normes masculines les plus élevées. Donc, on est un peu dans l'homme parfait.
L'homme nouveau.
L'homme nouveau, voilà.
Le massacre, c'était à Wounded Knee, hein, c'est ça?
Oui, exactement. Ouais. Qui est un lieu finalement assez chargé.
Oui.
Donc, pour les nations autochtones aux États-Unis, je pense que ça peut pas être plus clair. Les trois prochaines années vont être extrêmement difficiles. La rage extractiviste est à flanquer de ce discours extrémiste. Donc, je serais pas surpris qu'éventuellement les gardiens du territoire soient classés terroristes par les services de renseignement. Dans le même ordre d'idées, on a reçu la visite à Ottawa fin septembre de deux représentantes du Parlement Xinka du Guatemala. Elles ont tenu une conférence de presse sur la colline parlementaire pour demander au gouvernement canadien et à la société minière vancouveroise Pan American Silver de respecter la décision, suite à un long processus de consultation du peuple Xinka, d'exiger la fermeture de la mine d'argent Escobal, conformément à son droit à l'autodétermination garanti par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L'entreprise, elle, entend continuer d'exploiter la mine en présentant ses propres rapports de consultation, qui est une sorte de je ne sais trop quel chapeau.
Leur CA, oui.
Leur
oui.
CA, ou une petite consultation dans leur page Facebook, peut-être. Elle contourne donc les processus démocratiques légaux par toutes sortes de moyens, souvent violents, au point où le dernier président du Parlement, Xinka, sa famille et plusieurs autres personnes qui craignaient pour leur vie ont fui le Guatemala l'année dernière. Donc, bravo à ces deux courageuses femmes autochtones qui sont venues défendre le droit de leur communauté chez nous. Chez nous, donc, le Canada, Mathieu, où on te trouve, on te retrouve immédiatement pour d'autres actualités autochtones axées principalement sur des enjeux concernant les femmes autochtones.
Oui, les violences contre les femmes, deux sujets ben, assez connus, mais dont il y a eu des développements dans les dernières semaines. Donc, dix ans après les premières dénonciations publiques, alors que la sénatrice Yvonne Boyer fait pression pour avoir une loi criminalisant la stérilisation forcée et sans consentement, et que les recours collectifs se multiplient, les paroles se libèrent peu à peu. Elles permettent de commencer à effleurer l'ampleur du problème. Donc, je me suis basé sur une série de trois textes d'Espace autochtone de Radio-Canada.
Parfait.
Le projet de loi déposé par la sénatrice métisse Yvonne Boyer est adopté en troisième lecture à la Chambre haute au début du mois. Il est désormais entre les mains des députés de la Chambre des communes. Avant la prorogation du Parlement en début d'année, ce texte législatif qui définissait ce qui relève du consentement et prévoyait des peines pouvant aller jusqu'à 14 ans de prison pour des interventions de stérilisation forcées et contraintes est donc mort au feuilleton. Il a été ramené, évidemment, depuis. En 2021, l'émission Enquête de Radio-Canada avait révélé que des femmes autochtones et des femmes noires étaient stérilisées sans leur consentement, leur plein consentement au Québec. La sénatrice noire Amina Gerba du Québec a révélé qu'elle a été victime de stérilisation qu'elle qualifie de forcée lors de la troisième lecture du projet de loi au Sénat. Elle a raconté l'histoire d'une femme d'affaires bien éduquée qui avait souffert pendant des années de douleurs menstruelles atroces accompagnées de saignements abondants. Après consultation, on lui a proposé de retirer son endomètre. Cependant, lors d'un examen de routine 10 ans plus tard, elle a découvert avec stupeur qu'on lui avait enlevé l'utérus, a-t-elle expliqué au sénateur.
On a bien pris soin de ne pas lui dire,
évidemment. Exactement, voilà. Amina Gerba a rejoint le comité sénatorial des droits de la personne qui étudie la stérilisation forcée et contrainte de personnes au Canada. Dans son rapport de 2022, le comité est revenu sur la participation de la docteure Joséphine Etawa, professeur à l'Université d'Ottawa, et sur son projet mené en 2002 sur la prestation de services de santé aux femmes noires dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse. L'équipe de la professeure Etawa a remarqué que l'hystérectomie revenait sans cesse sur le tapis lors des entretiens en profondeur menés auprès de 237 femmes. Sinon, je perds mes pages.
Qui, elles aussi, ont subi cette chirurgie sans consentement?
Oui, qui ont chirurgie ou ablation, ou en tout cas, intervention, oui, tout à fait. Pas toutes, mais sur les 237 femmes à la Nouvelle-École, mais plusieurs. Puis c'est toutes des femmes noires issues des anciennes esclaves qui avaient fui au Canada à l'époque.
C'est très systémique.
Là. Exactement. Amina Gerba ne veut pas qu'on ait pitié d'elle, là, la sénatrice. Je la cite. « Je veux que les gens comprennent que ce que nous vivons est une réalité, une vérité. Et pour trouver une solution, il faut nommer le problème. C'est du racisme systémique. » Yvonne Boyer, la sénatrice qui promouvoit le projet de loi, a conclu que chaque jour qui passe sans que ce projet de loi soit adopté aux communes est un jour de plus où une personne au Canada risque d'être stérilisée contre son gré, parce que ça peut continuer.
Et statistiquement, elle a raison.
Voilà. Troisième article, c'est plus de 30 femmes Atikamekw de Manawan se sont manifestées dans le cadre du recours collectif contre le 6 de la Naudière et l'hôpital de Joliette et trois médecins pour des stérilisations forcées ou non consenties subies depuis 1980. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg, soutiennent les avocates au dossier. Ces avocates ont constaté que les ligatures aux stérilisations ont été faites à un âge assez jeune, vers la mi-vingtaine, parfois moins, à des moments de la vie où ça nous apparaît évident qu'elles n'avaient pas fini de fonder leur famille, ces jeunes femmes. Certaines patientes affirment avoir été stérilisées à leur insu et s'en être aperçues plus tard. D'autres disent avoir subi des menaces, de la pression ou encore avoir reçu de fausses informations pour accepter la procédure. Un cas de figure revient constamment. La stérilisation a été présentée à de nombreuses femmes comme un moyen de contraception réversible. Un autre cas de figure fréquent...
C'est criminel.
La ligature des trompes est présentée comme nécessaire parce qu'une future grossesse mettait leur vie ou la vie du bébé en danger. Ce qui a été contredit quand ils ont étudié les dossiers de ces nombreuses femmes-là. Ils étaient là, allait très bien, puis il n'y avait pas eu 50 enfants avant.
Quand les femmes sont sous médication, où on a déjà entendu ce genre
de
cas aussi.
Ah, ben au niveau du consentement, entre guillemets. Là. La chercheuse Atikamekw Suzy Basile, qui a publié en 2022 le premier rapport sur la stérilisation imposée au Québec, avait déjà prévenu que le tableau qu'elle avait brossé était loin d'être complet, qu'il y aurait beaucoup plus de cas, évidemment. Je vous suggère aussi de lire l'article « Privé du droit d'être une femme, récit de femmes autochtones stérilisées de force ». Donc, trois femmes autochtones de trois générations différentes qui témoignent, deux du Québec, et c'est la première fois qu'ils publiquement, et auprès même de leur communauté, témoignent de leur situation qui est arrivée à l'époque, qui continue à avoir des conséquences dans le but, puis ils veulent évidemment sensibiliser d'autres personnes. Mon autre sujet plus court, Simon, en 2005, la GRC lançait le projet IPANA pour enquêter sur les femmes disparues ou assassinées le long de la route des larmes dans le nord de la Colombie-Britannique. 20 ans plus tard, une seule famille, celle de Monica Jack, a trouvé la paix avec la condamnation d'un suspect. Au début, la GRC se concentrait sur 9 disparitions survenues entre 1969 et 2006. Rapidement, ce chiffre a doublé, a été porté à 18, 13 homicides, 5 disparitions, dont 10 concernent des femmes autochtones. Et la moyenne d'âge est à peu près de 17 ans. Donc, c'est beaucoup des jeunes, des femmes, des filles assez jeunes. Il y en a une de 40 ans, mais la plupart ont 14, 15, 18, 19. Donc, c'est quand même quelque chose. Mais pendant ce temps, la GRC au Manitoba a déposé des accusations de meurtre au deuxième degré et d'indignité envers des restes humains contre 3 personnes soupçonnées d'être responsables de la mort de Melinda Lynx-Legg, une femme autochtone disparue il y a 5 ans au Manitoba. La victime, mère de 6 enfants, a été vue pour la dernière fois dans la Première Nation, Tutinao-Wasing-Bing, située à environ 300 km au nord-ouest de Winnipeg en 2020. Elle avait 40 ans. Ses restes ont été retrouvés 3 ans plus tard, en juin 2023, à la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan, environ 45 km de la Première Nation. Et là, ils viennent d'accuser 3 personnes qui n'ont pas été nommées. Okay. Mais bon, un dossier qui avance, entre guillemets, pour les familles. Et sinon, en terminant, toujours dans le même ordre d'idée, un monument rappelant les femmes, filles et personnes 2ELGBTQI+, mm-hmm. autochtones disparues, assassinées, a été dévoilé à Ouachat-Mac-Maniotenam. La statue tournée vers le fleuve a été dévoilée le 4 octobre au cours d'une cérémonie menée dans le cadre de la Journée nationale de commémoration et d'action pour les filles, femmes, filles et personnes de LGBTQI+. Au moins, il faut savoir qu'au moins 4 femmes de la communauté ont disparu ou ont été assassinées dans les dernières décennies, soit Tania Pinette, Marie-Marthe Grégoire, Jocelyne Grégoire et Nadège Gouaniche.
On est dans les communautés Innu?
Dans une communauté Innu, près de cette île, à Ouachat, oui.
Merci beaucoup, Mathieu. Donc, dans quelques instants, on vous revient avec l'agenda. Beaucoup de suggestions pour vous. Ça va aller vite, mais vous pouvez toujours nous réécouter sur choc.ca si vous en perdez des bouts. On commence avec le 4 novembre, soirée immigration et laïcité. La question de la laïcité, on sait, elle occupe beaucoup, beaucoup de place dans notre espace médiatique. On assiste à une surenchère identitaire. L'immigration est souvent présentée comme une menace à la laïcité, aux prétendues valeurs québécoises. Alors, à l'approche des élections provinciales, qui sont pas pour tout de suite, mais quand même bientôt, l'Observatoire pour la justice migrante et la Ligue des droits et libertés tenaient, et là, je vous lis un extrait de la description de la soirée, à recadrer le débat pour mieux comprendre ce qu'est une véritable laïcité respectueuse des droits, à montrer en quoi le gouvernement québécois s'en écarte et à déconstruire les discours dangereux qui opposent la laïcité aux droits humains et qui l'instrumentalisent pour mieux exclure. Il y aura tout un panel d'experts sur place, des performances, une période de micro ouvert et comme je disais, ça se passe le 4 novembre, un mardi soir de 17h à 21h au Osgang Plaza, 6524 Saint-Hubert à Montréal. Les billets au coût de 10$ sont en vente sur ligue-des-droits.ca. Le lendemain, mercredi 5 novembre, on a un café-causerie Solidarité antifasciste organisé conjointement par le CAPED, Collectif de recherche action politique et démocratie, et la librairie Un livre à soi. La description officielle est la suivante. Plusieurs collectifs militants antifascistes de Montréal échangeront autour des enjeux qu'ils portent, de leur mode d'action et des objectifs poursuivis. Une série de questions sera posée aux invités, suivie d'une période d'échange avec le public. C'est gratuit. Ça se passe au 1575 Laurier Est à partir de 17h30. Maintenant, à la veille du scrutin municipal, une lettre ouverte pour une ville anti-apartheid et un appel citoyen aux candidats-candidates des élections à Montréal. Allez voir ça en ligne. Le site, c'est mtlantiapartheid.ca. On peut y lire un texte complet sur les revendications envers la ville qu'on souhaite voir s'engager beaucoup plus sérieusement contre, oui, l'apartheid, mais bien sûr, sur la guerre, l'occupation, le génocide, la colonisation. Là, je parle d'Israël-Palestine. Là, je ne sais pas si c'était nécessaire de le préciser. On trouve dans le site un tableau synthèse des positions des principaux partis sur certains enjeux plus spécifiques. On peut aussi voir quels candidats ont signé le pacte. Il y en a 105 sur 421 qui l'ont signé. À date, ce sont surtout des membres de Projet Montréal et de Transition Montréal qui ont signé le pacte. Quelques indépendants et attention, 3 candidats d'Ensemble Montréal. Je ne sais pas s'ils vont se faire chicaner. On peut aussi signer en tant que citoyen ou organisation d'ici à l'élection de dimanche prochain, le 2 novembre. Pour terminer, 2 pétitions en ligne. La première s'intitule « Retirer C9, la loi visant à lutter contre la haine, une menace à nos droits et libertés ». C'est une initiative de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles qui considère que ce projet de loi fédéral donne des pouvoirs discrétionnaires démesurés aux services de police pour déterminer ce qui constitue de la haine ou non, surtout dans certains contextes particuliers, comme les actuelles contestations du génocide à Gaza, que certains lobbies essaient systématiquement de faire passer pour de l'antisémitisme. Donc, pour plus de détails et pour signer la pétition, on se rend sur iclmg.ca. L'autre pétition dont je vous parle est encore plus directement liée au génocide. Un groupe de soutien à l'armée israélienne et aux colonies illégales qui s'était vu retirer le statut d'organisme de bienfaisance. Le Fonds national juif canadien qui a tenté deux appels contre cette décision. Les deux appels ont échoué. Ils essaient de revenir avec un nouvel organisme de bienfaisance par la porte d'en arrière qui s'appelle très subtilement les Amis du Fonds national juif canadien. On n'est pas dupes. Le montage entre les deux organismes amis est bien expliqué, même si c'est quand même relativement complexe. Pour tous les détails et pour participer à la campagne, l'adresse est actionnetwork.org sous le titre « Empêchons JNF Canada de contourner la révocation de l'Agence de revenus du Canada ».
Non, mais quand même, il aurait pu se forcer un
ben
peu.
Ben oui, quelque chose, un nom d'organisme un peu différent.
Mais non, mais c'est vraiment de nous prendre pour des imbéciles.
Même l'Agence de revenus du Canada s'en est aperçu.
J'espère. Écoutez, je pensais qu'on manquait de temps. Il me restait peut-être une autre suggestion à l'agenda. Je vais vous la donner maintenant. Donc, une nouvelle référence documentaire produite par la Ligue des droits et libertés qui devait prendre la forme d'une brochure imprimable fin octobre. J'ai pas vu de lien téléchargeable pour l'instant, mais ça devrait être disponible rapidement. En attendant, toute la documentation est en ligne sous le titre « Sortir de l'approche coloniale, cinq enjeux pressants en matière de droits des peuples autochtones au Québec ». Je vous donne un extrait de la présentation de ces textes. Après 7 ans de gouvernement majoritaire de la CAQ, il est temps de dresser un bilan critique de sa contre-performance en matière de droits autochtones et de lui rappeler, ainsi qu'aux partis d'opposition, les solutions existantes pour assurer la reconnaissance, la protection et la mise en œuvre des droits des peuples autochtones. L'analyse ratisse très large, droits linguistiques, droits à l'autodétermination, régime forestier, sécurisation culturelle et principes de Joyce, protection de la jeunesse, femmes et enfants disparus et assassinés, etc., etc. C'est donc un portrait très complet de la situation actuelle qu'on trouve, encore une fois, sur ligue-des-droits.ca.
Bien là, de toute façon, au rythme où ça va, les démissions, les départs au sein de la CAQ, peut-être que notre cher Yann Lafrenière sera plus là dans quelques mois. Là.
Ben oui, ils sont en train de se dissoudre eux-mêmes.
J'allais dire les rats quittent le navire, mais bon.
Ouais, ben tu l'as dit. Donc voilà qui conclut cet épisode du 30 octobre 2025 des Apatrides Anonymes. Notre courriel apatridesanonymes@resist.ca. Notre site web apatridesanonymes.info où vous trouverez tous nos balados en rattrapage. Vous les trouverez aussi évidemment dans choc.ca. Où il y a toute une programmation à la fois musicale et de contenu parlé qu'on vous invite à découvrir. On a toujours une page FB, évidemment. Vous pouvez vous abonner pour plein de contenus complémentaires. Et on salue la gang de Radio Victoria qui nous diffuse sur sa fréquence FM sur la côte ouest. Je vous remercie, vous deux, bien sûr, Marie-Ève et Mathieu.
Merci. Merci, Simon, pour ton animation, tes sujets pertinents et ton choix et tes choix musicaux.
Ben oui, il en reste d'ailleurs. Merci,
Marie-Ève. Merci, SF. Je continue dans mes acronymes.
Oui, celle-là, pas besoin de le retenir. Merci pour vos analyses. Des sujets pas toujours évidents à résumer. On se retrouve les trois le jeudi 13 novembre, 18h30, pour qui aime nous écouter en direct.
Peut-être avec une entrevue à confirmer.
Ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas eu, donc ce serait intéressant. La troisième et dernière pièce qu'on va écouter figure aussi au palmarès de Choc, au palmarès international. C'est du groupe new-yorkais Geese, qui est actif depuis une dizaine d'années. Leur quatrième album complet, Getting Killed, a été lancé il y a à peine un mois sur les étiquettes Partisan Records et Play It Again Sam. Plusieurs dates de spectacles un peu partout dans le monde dans les prochains mois, mais rien au Canada pour l'instant. On va entendre la pièce finale de l'album, pièce que je pourrais qualifier de nerveuse. Le titre est « Long Island City, Here I Come ». On écoute donc Geese. Je vous rappelle que vous étiez avec les Apatrides Anonymes sur choc.ca. On se retrouve dans 2 semaines. Bonne soirée, joyeuse Halloween, bonne élection municipale et prenez soin de vous.
T'es positif, Simon. Bonne soirée tout le monde.
where they're going. Nobody knows where they're going. Nobody knows where they're going except me. I told poor John. You've been talking to you know who. And if you can talk to him, you can talk to me too. And Joan of Arc, she won. The Lord has a lot of friends. In the end, he'll probably forget he's met you before. Your ass up and down this